Chapitre 33. La lente respiration des organes, le grondement chaud du sang quelque part dans ces tunnels serrés. Boum boum, boum boum. Le feulement de l'air dans ma gorge, une pulsation de paupières. Le grand éclair blanc du jour et les espaces fermés d'une chambre d'hôpital. Après mon réveil, ce fut le clerc qui s'approcha le premier, suivi de deux hommes dont l'un en blouse et l'autre en costume sombre.
« Content de te revoir parmi nous, Shark !»
Je portais une main à mon crâne. Un bandage me le comprimait.
« Que s'est-il passé ?»
Le médecin poussa sur ma poitrine, alors que j'essayais de me redresser un peu.
« Votre véhicule a percuté un parapet et s'est encastré dans un rocher, à quelques centimètres d'un ravin. Votre tête a tapé violemment la vitre passager. Vous avez eu une chance phénoménale de vous en être sorti avec si peu de séquelles. » Vous n'avez qu'un traumatisme crânien minime. Par la fenêtre, les cimes enneigées resplendissaient sous le soleil.
Je suis resté inconscient combien de temps?
Une vingtaine d'heures. Vous vous êtes réveillé dans l'ambulance et comme vous étiez très agité, nous vous avons administré un sédatif. Vous vous trouvez au CHR de Grenoble.
Je m'abandonnais un instant, transpercé par une immense fatigue. Tout me revenait en mémoire. L'orage, la gosse sur mon volant, le parapet. Après m'être massé les tempes, je m'enquis, désignant l'homme à la cravate.
« Et qui est-ce, monsieur ?»
L'intéressé s'approcha, les mains dans le dos.
« Docteur Reeve, je suis psychiatre. »
Je fronçais les sourcils.
« Encore un psy ? J'avoue que je ne saisis pas bien. »
Reeve se racla la gorge.
« Le docteur Flamand, qui vous a accompagné à la trompette blanche, nous a fait part de vos hallucinations. Cette petite fille aux chaussures rouges et à la robe de chambre bleue. » « Je suis ici pour que nous en discutions. »
Un feu de colère empourpra mes joues.
« Quoi ? C'est du délire !»
Il ne perdit pas son aplomb.
« Essayez de garder votre calme, commissaire. Je ne suis pas venu ici pour vous agresser, mais simplement pour parler un peu. »
Je voulus m'emmurer dans le silence, mais ne pus m'empêcher d'exploser.
« Mais que voulez-vous que je vous explique ? C'est inexplicable !» Oui, il y a une môme qui apparaît quand bon lui semble. Elle s'installe chez moi, observe mon réseau de train dans le salon. Elle lit des livres que ma fille lisait. Elle prétend communiquer avec elle, mais que vous dire d'autre? Personne n'a l'air de la voir, c'est ça le pire. Il n'y a que moi et Willy.
Votre voisin, c'est bien ça?
Oui. Demandez-lui, et vous verrez que je n'ai pas d'hallucination, bon sang. J'étais bien le dernier à croire aux fantômes.
Le clerc s'approcha du lit, la mine fermée.
J'ai fait vérifier certaines choses. « Commissaire, me dites pas que... vous non plus. »
Il baissa le regard et le releva aussitôt.
« L'appartement de ta voisine guyanaise n'a jamais été habité après sa mort. Tu n'as pas de voisin qui s'appelle Willy. Tu es seul à ton étage. »
Cette fois, je me redressai avec force.
« C'est pas possible. Mais comment vous pouvez raconter des conneries pareilles ?»«
Je ne raconte pas de conneries.
Ce Willy t'a-t-il déjà proposé d'entrer chez lui? Peux-tu me décrire l'intérieur de son logement? Et son métier, c'est quoi ?»
Il est étudiant, ouvrier, vas-y.
Commissaire, mais
la porte de ton domicile était entrouverte. Ça t'arrive souvent, ce genre d'oubli?
Je me pris la tête dans les mains.
Du coup, Polo a cru bon de vérifier qu'on ne te cambriolait pas. Il est allé jeter un œil chez toi. Il a retrouvé deux couteaux sous la table de cuisine. L'un avec de la sève d'arbre sur le manche, mais l'autre avec du sang séché. La blessure sur ton bras.
Ce n'était pas une boîte de conserve, je crois que tu t'es coupé tout seul.
Je le dévisageais.
Comment osez-vous? C'est une farce ou quoi?
Il n'y a pas que ça. Le Franck Charcot que je connaissais n'aurait jamais passé quelqu'un à tabac, comme tu l'as fait avec Patrick Chartreux. Ce Franck Charcot-là avait des principes. Tu parlais souvent aux collègues de ton réseau de train dans ton salon, de tous ces petits personnages, des locaux électriques, des vapeurs vives. Mais il n'y a rien chez toi. Que des emballages de rails entassés, par douzaines, même pas ouverts. Il tendit ses paumes au ciel.
Rappelle-toi aussi, je t'avais parlé d'absence quand tu avais rencontré l'inspecteur de l'IGS. Tous ces signes, ces tas de boîtes vides de médicaments chez toi, antidépresseurs, stimulants, somnifères.
Il se retourna brusquement, la tête dans les épaules.
Merde, Franck. Je suis désolé. Tu ne peux pas savoir à quel point. Dire qu'on ne s'est rendu compte de rien.
Mes lèvres tremblaient. Les mots ne venaient plus. Brouillard, malaise, frisson. Soudain, deux doigts apparurent derrière la tête du psy, imitant des oreilles de lapin.
« Yo, man, il paraît que tu te payes des frayeurs ?»
J'expirais longuement.
Willy. Oh, Willy, aide-moi à démêler ce sac de nœuds. Ils me prennent pour, je ne sais quoi, un taré. Explique-leur pour la fillette. Tu l'as vu, toi aussi. Dis-leur que je suis pas fou.
Il pompa un grand coup sur sa cigarette et dispersa un vaste nuage de fumée.
N'écoute pas ce qu'ils racontent, man. Ils veulent juste t'embrouiller. Et moi, je suis là pour t'aider. Tu m'appelles, je viens.
Je plaquai mes mains sur mon visage. Oh non, il ne te voit pas non plus. Seigneur.
Et tandis que Willy jouait le pitre, tandis que la môme arrivait derrière lui, les yeux pleins de chagrin, comme pour se faire pardonner, deux voix continuaient à entrer en moi, lointaines, très lointaines. Deux voix que je n'écoutais plus, celles de Leclerc et de l'homme en costume.
Docteur, qu'est-ce qui lui arrive ?
Seule une analyse approfondie nous le dira. Je ne préfère pas trop m'avancer.
S'il vous plaît.
D'accord. À première vue et au regard de ce que vous-même et le docteur Flamand m'avez raconté, son cas laisserait penser à une schizophrénie paranoïde, caractérisée par une richesse de production délirante et hallucinatoire.
L'un de nos meilleurs flics, un schizophrène ? Mais c'est impensable. Il vient de mener l'une des enquêtes les plus éprouvantes de sa carrière. Pas un n'aurait réussi aussi bien.
Il existe plusieurs formes de schizophrénie, plus ou moins violentes. Certains malades, notamment les schizoïdes paranoïdes, peuvent parfaitement continuer leur activité socio-professionnelle et sont loin d'être des malades mentaux. Cette pathologie n'affecte aucunement l'intelligence. Elle s'installe parfois si lentement que la famille, et même le sujet atteint, peuvent mettre longtemps à se rendre compte que quelque chose cloche. On appelle cette forme de dégradation lente schizophrénie de survenue graduelle.
Mais il a plus de 45 ans. Pourquoi ces hallucinations sont-elles apparues si tard ? Elles sont liées à la disparition de son épouse et de sa fille ?
Entre autres, sans oublier les facteurs du quotidien, stress, tension, pression, renfermement sur soi et solitude. Cette enquête l'a aussi fortement affecté, je suppose.
Oui.
Outre ces facteurs, on soupçonne même la génétique, mais tout ceci reste très flou. Quoi qu'il en soit, son esprit s'est progressivement fracturé, le rendant incapable de dissocier le fictif du réel. Ça a commencé de manière très anodine avec les locomotives, où il s'est recréé un univers qui lui était familier, une espèce de cocon protecteur, de pépinière à souvenirs. Ses petits trains devaient lui rappeler sa gosse, les agréables moments passés avec elle. Inconsciemment, il voulait la ramener à lui.
C'est évident, oui.
Alors les personnages fictifs sont apparus et, peu à peu, se sont immiscés dans sa vie. Probable qu'au départ, il ne se manifestait que ponctuellement, au détour d'un couloir, dans la rue, la cuisine, la chambre. Juste l'impression d'une présence. Puis leur emprise a grandi. Il le distrait, lui parle, commence à l'accompagner dans ses sorties avant de disparaître inopinément. D'ici quelque temps, ils ne le lâcheront plus, le troubleront, accapareront toute son attention.
Et ce coup de couteau sur son bras. Et l'accident de voiture, la maladie là aussi ?
Apparemment, l'un des deux personnages, la gamine, est dangereux. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Ça peut aboutir à des mutilations ou des tendances suicidaires. La fillette est la projection de ce qu'il a au fond de lui, dans son inconscient. Cette volonté peut-être de rejoindre sa famille, en passant par le suicide.
Oh nom de Dieu. Est-ce qu'on retrouvera le Franck Charcot d'autrefois ?
Pour s'en sortir, il devra comprendre que ces êtres sont fictifs, qu'ils sont le pur fruit de son imagination. Il y parviendra en se rendant compte de leurs erreurs, des situations impossibles dans lesquelles ils se retrouveront. Par exemple, les fictifs accompagnant les schizophrènes ne vieillissent pas, changent rarement de tenue, fument des cigarettes qui ne se consument jamais. S'ils se rendent à la piscine, seront-ils capables de nager ? Il leur posera ces questions-là. Ils devront se justifier et peut-être les piégera-t-il. C'est une dure lutte contre lui-même qu'il attend.
Combien de temps cet enfer va-t-il durer ?
Le cerveau ne peut pas se guérir lui-même, malheureusement. Il devra suivre une cure psychosociale avec soutien psychothérapeutique et médications adéquates à base d'antipsychotiques qui atténueront, voire effaceront les hallucinations. En moyenne, l'amélioration de son état nécessitera 4 à 6 semaines. Il faudra encore une période de 3 mois au moins pour ajuster la posologie et éventuellement la modifier avec le minimum d'effets secondaires. Suivant les cas, le traitement peut s'étendre sur plusieurs années, à vie même parfois.
Merde. C'est pas vrai.
Je sentis soudain la chaleur d'une main sur mon épaule. Leclerc s'installa sur le bord de mon lit, alors que Willy faisait encore le clown, agitant ses cheveux en spaghetti comme un hard rocker déjanté.
« Je ne te l'ai pas encore dit, mais t'as vraiment assuré avec Jérémy Crook, » me confia le divisionnaire d'une voix un peu fébrile. « Je n'en connais pas deux qui auraient pu assurer comme toi. »
J'acquiesçais lentement, la nuque posée sur mon oreiller.
« Et son père, Vincent, qui était-il vraiment ?»
« Il a eu Jérémy très jeune, » fit Leclerc. À 16 ans, avec une femme qu'il ne quittera plus jamais. C'était quelqu'un de très simple qui gagnait sa croûte chaque jour dans une usine de textile, mais avec de gros problèmes affectifs. Dépression à répétition, tristesse permanente. D'après son épouse, il portait très souvent des masques joyeux pour donner une illusion de bien-être. Au fond de lui, même sans savoir, il ne voulait sans doute pas imposer à ses proches de revivre ce qu'il avait subi plus jeune. J'eus un regard vague. J'aurais tant aimé connaître ce Vincent. C'est une bien triste histoire. Aussi triste que la mienne. Je fixai le clair intensément, les lèvres serrées, pleines de ma douleur. Je déclarai finalement « Je suppose que si je me lève là maintenant et que je retourne au 36 et exercer mon métier, ça ne le fera pas, hein ?» Leclerc serra les mâchoires. « Des gens compétents vont s'occuper de toi, Franck. Et puis, tu pourras peut-être nous aider, même loin du terrain. Les scènes de crime à analyser ne manquent pas. On a tellement besoin de cerveau. Comme un vieil ami à qui on demanderait un service de temps en temps. » Je lui pris la main et souris. « Ravi d'avoir travaillé avec vous, commissaire. Ce fut un très grand honneur. » Il enveloppa ma main des deux siennes, les porta à son cœur et s'éloigna lentement, m'accordant ce dernier regard de ceux qui prennent en pitié. Et je retins mes larmes, avec cette fierté des rois déchus, parce que je ne voulais pas que la petite fille qui venait d'apparaître me trouve en pleurs. Cette petite fille, dont je ne connaissais même pas le prénom.